puppy. One take puppy. Bonjour, TJ Chrissy. Merci d'être là.
Bonjour.
Thank you. On va commencer. Quand as-tu commencé la musique?
J'ai vraiment commencé la première fois que j'ai eu un instrument de musique, c'était quand j'étais en seconde, donc ça devait être en 1987 peut-être, où avec un ami, on a commencé dans un groupe de rock en fait. Moi, je me suis acheté une basse à 16 ans, donc 16 ou 10. Non, en seconde, j'avais pris déjà un an de retard, j'avais peut-être 17 ans. Non. 16, je me souviens plus. 16, 16. J'ai commencé là, je me suis avec un ami, Pierre-Michel Levallois, qui a dit, moi j'achète une guitare, t'achètes une basse et on monte un groupe. Et donc là, c'est la première fois que j'ai effectivement commencé à faire de la musique. J'étais un gros fan de musique, mais j'ai passé...
Et tu as pris la guitare comme ça, tu as pris comment...
J'ai pris la basse comme ça, puis après j'ai acheté dans le magasin de musique, j'ai acheté une méthode pour apprendre la basse.
D'accord.
Tu vois, un papier, quoi. Mm-hmm. Et j'ai appris comme ça, dong dong. Et après, après, le truc, c'est que je me suis rendu compte, on a trouvé un copain batteur, Jean Manu, et là... je me suis rendu compte de l'exaltation de se retrouver à trois dans un garage et à jouer de la musique ensemble. On jouait très mal, mais par contre le c'était ultra exaltant de se retrouver à tous les trois à faire la musique. Ça, tout d'un coup, le fait de créer de la musique, ça a tout de suite tilté.
Et vous avez joué quoi? C'est plutôt le rock,
c'était punk.
C'est plutôt
à l'époque, punk. C'était rock, c'était punk, c'était l'époque, c'était le groupe dont on était fan à l'époque, c'était Berrurier Noir. C'était un peu dans cette optique-là qu'on jouait. Au début, on jouait avec une boîte à rythme, puis après, on a trouvé un batteur. Et voilà. Mais c'était punk rock, grosso modo, le truc. L'avantage du punk rock, c'est que même si tu joues mal, tu peux faire la musique. Et nous, on jouait très mal.
C'est drôle. OK. Il se passait quoi à Versailles au début des années 90? Parce que c'est toi, Air, Phoenix, toute le...
Alors,
French Touch, c'était.
On ne sait pas trop, effectivement.
À Versailles, quand même.
Alors, on était tous à Versailles au lycée, effectivement. Au lycée, il y avait
dans le même lycée.
On était dans le même lycée. Alors, il y a eu un moment où on est passé par le lycée Jules Ferry, effectivement. Et il y avait. Pas tout le monde, mais c'est vrai qu'il y avait Jean-Benoît de R qui était au lycée. Il y a Nicolas Godin aussi de R qui est passé à Jules Ferry, mais après, il est allé dans un autre lycée. Il y avait donc Alex Goffer aussi qui était dans ce lycée-là. Arnaud Robotini aussi était dans ce lycée-là. Effectivement, on était toute cette bande-là, fans de musique, et qui avons monté des groupes. C'est-à-dire qu'on a commencé à jouer de la musique, effectivement, à Versailles. Alors, pas tous ensemble, mais on se voyait, il y avait des salles de répète un peu en commun. Il y avait un écosystème, on va dire, de musiciens.
Oui, c'est beaucoup quand même pour un lycée. C'est...
Ouais, oui et non, je pense que dans toutes les villes, il y avait un peu ça. Il se trouve que le truc hyper étonnant, c'est quelques années après. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, après mon bac, j'ai quitté Versailles, je suis allé m'installer à Paris. Tous les copains, en fait, tout le truc s'est un peu disloqué à ce moment-là parce qu'il y a ceux qui sont partis faire des études à droite, à gauche, tout ça. Et moi, j'étais celui qui allait à Paris. Alors, au début, je pensais qu'à... Parce qu'à Versailles, c'est une ville où on s'ennuyait beaucoup. C'est une ville très morte. C'est-à-dire, c'est une ville vraiment à 8 heures, tout est fermé. C'est une ville très conservatrice, très de droite, et qui n'aimait pas tellement rien, ni les jeunes, ni les concerts, encore moins les punks. Donc, en fait, nous, on était un peu exclus de l'ambiance de la ville. On était un peu les parias.
C'est vrai.
Non, mais on était les schlagos de Versailles. Ouais. Versailles, c'est vraiment une ville. C'est une ville extrêmement BCBG. C'est une ville où il y a des rallyes. Alors nous, on n'était pas invités au rallye, quoi. La sociabilisation à Versailles, c'était comme ça, au rallye, où tu avais quand même les parents qui amenaient leurs enfants dans des soirées. Tu sais, des enfants qui avaient 17-18 ans. Hein, et c'est les parents qui venaient les rechercher. Et c'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Et donc, en fait, j'ai l'impression que toute cette scène-là, c'est ceux qui étaient un peu qui étaient en creux de cette socialisation versaillaise. Et c'est vrai qu'après, donc moi, l'idée, dès que j'ai eu mon bac, je me disais, moi, je fais des études à Paris. Et en fait, mes autres potes n'ont pas obligatoirement fait des études à Paris. Je me suis retrouvé tout seul à Paris, à vouloir continuer. J'ai arrêté mes études à ce moment-là en me disant, moi, je veux faire de la musique. Et en fait, mes potes étaient plus sérieux que moi. Ils ont dit, ouais, la musique, oh là là, ça va plutôt être un hobby. Nous, on va continuer nos études. Et donc, voilà, et là, je me suis retrouvé un peu tout seul à Paris. Et j'ai commencé à travailler, enfin, j'ai, après plein de, plein d'étapes, j'ai réussi à trouver une place dans un studio d'enregistrement professionnel. Et donc, j'ai été un des premiers de la scène versaillaise à travailler de manière professionnelle dans l'industrie du disque.
Tu as fait quoi? Le son?
J'étais ingénieur du son. J'étais assistant ingénieur du son dans un studio, le studio Plus 30, qui est à deux pas de chez nous, mm-hmm. Qui était rue de Crimée, juste en dessous, rue des Annelais, juste à côté du pont, mm-hmm. de la rue Arthur-Rosier, qui passe au-dessus de la rue de Crimée. Et bien, juste là, à cet endroit-là, il y a un studio qui était un gros studio parisien, un gros studio où il y avait la variété de qualité française, on va dire, dans les années 90. C'est-à-dire qu'il y avait Bachung, Étienne Barreau, qui travaillait là. Moi, j'ai trouvé une place là d'assistant. C'est là où j'ai rencontré Philippe Zdar, avec qui on a fait Motorbass. Et donc, quand j'étais dans ce studio, la nuit, quand il n'y avait plus personne dans le studio, moi, j'ouvrais le studio parce que j'avais les clés. Et il y avait donc le groupe de Nicolas Godin, Jean-Benoît Dunkel et Alex Goffer, ils avaient tous les trois ensemble, qui venaient, on enregistrait, on mixait des trucs dans le studio la nuit, en cachette, tout ça. Et donc, je pense que ça a donné un peu à toute cette scène-là l'espoir qu'en fait, c'était possible de faire travailler la musique, professionnellement dans, mm-hmm. dans la musique. Donc, le truc qui est marrant, c'est que tout ce groupe qu'on était à 16, 17 ans, voire 18 pour ceux qui avaient redoublé, en fait, on s'est retrouvé quand même quelques années après, il y a eu un passage où on ne se voyait plus du tout. Et puis tout d'un coup, tout le monde a réapparu. Et avec du succès, c'est ça qu'il y a. Alors ça, c'est le truc qu'on ne peut pas s'expliquer.
C'est fou.
Tout le monde a rencontré le
succès. C'est fou, le succès, oui. Ouais. Incroyable. OK. Comment as-tu commencé à mixer? Et quel moment tu as dit, OK, c'est vraiment être mon métier?
C'est bien dit. Mon métier. Alors là, c'est pareil, c'est un truc. Au départ, oui, moi je jouais donc d'un instrument de musique assez mal. Quand je suis arrivé assistant dans le studio, je me suis rendu compte que ma capacité elle était plus à cette place-là, en fait, d'être techniquement ingénieur du son plutôt que musicien. J'étais pas très bon musicien et je me suis aussi vite rendu compte que ce serait pas avec ça que j'arriverais à gagner ma vie. En revanche, le métier d'ingénieur du son, il m'a semblé plus accessible pour mes compétences. Et effectivement, j'ai compris assez vite comment fonctionnait un studio d'enregistrement, techniquement, comment ça marchait. Ça correspondait à mon esprit, on va dire. Et donc, dans ma tête, ma carrière était plus de l'autre côté de la console à enregistrer. Et il se trouve que dans les années, en 1992, c'était en hiver parce qu'il faisait froid, avec mon ami Philippe Zdar et Jeff Dominguez, qui était assistant aussi au studio, et quelques amis, on a entendu parler des raves. Et donc, on s'est dit, nous, à l'époque, on était dans la musique, donc on découvrait le hip-hop, on était plus dans dans l'ambiance hip-hop française, c'est-à-dire qu'au studio, il y avait MC Solar, on enregistrait MC Solar avec Philippe Zdar et Hubert Bombass, et tout d'un coup, on a entendu parler d'une rave, on s'est dit, ah tiens, bah allons voir ce que c'est... ce truc-là, et on est arrivé, effectivement, donc là, je crois que la première fois, c'était en 92, dans une péniche sous le pont de Suresnes. Et donc, on est arrivé là-bas, je sais pas, à 4h du matin, parce qu'à l'époque, c'est une rave, quoi. Et là, tout d'un coup, on rentre dans un truc avec une musique complètement du futur, que des gens torse nu, hyper joyeux, qui étaient tous très, très amicales les uns avec les autres. Une chaleur de dingue et surtout un son incroyablement fort et bien, et donc on était très surpris et on est resté là jusqu'à donc on est ressorti de cette péniche à midi le lendemain en disant on a pris une grosse claque quand même. La découverte de la musique électronique, elle s'est faite à ce moment là en fait, de la techno, et c'était vraiment une techno assez assez hardcore à l'époque. Et donc oui, au départ, on est quand même allé là-bas pour acheter de la drogue. On ne voulait pas rester pour écouter de la musique. On avait dit, pareil, qu'il y a des extasies. On s'est dit, vas-y, on va acheter des extas. Et en fait, une fois qu'on est arrivé sur place, on s'est dit, bon, on va les prendre là, on va voir ce qui se passe. Et là, c'est là où on a pris la grosse tarte. Et donc après ça, on a été complètement omnibulé par cette musique et par les rêves. Il y avait beaucoup de rêves autour de Paris, dans pas mal d'endroits. C'est vraiment un truc qui démarrait, mais qui était complètement... c'était un groupe de 500-600 personnes qui faisait le tour de Paris, mais on se retrouvait tous, tout le temps et même. C'était pas du tout populaire, et c'était une musique qu'on entendait absolument nulle part ailleurs que là. Même les radios branchées, Nova, on parlait pas encore. Les magazines branchés de l'époque actuelle, c'était un truc complètement dingue, un point dingue, et qui pour nous était complètement futuriste. J'ai mis 6 mois à me rendre compte, en fait, il y avait un DJ dans les soirées. Au début, je savais même pas d'où venait la musique, et les gens ne regardaient pas le DJ. C'est un truc qui est dur à imaginer aujourd'hui. les gens en soirée ne regardaient pas le DJ. C'est-à-dire que tout le monde se regardait les uns les autres avec beaucoup d'amour. Mais par contre, le DJ était dans un coin. Et quand, le jour où j'ai découvert le DJ, c'est parce qu'il y avait un groupe de gens qui regardaient. Alors, en fait, il y avait quelques nerds. Donc, il y avait une dizaine de personnes qui étaient autour du DJ, qui regardaient les disques qui étaient en train de passer. Et eux, ils ne bougeaient pas de là. Tu veux regarder juste ce que faisait le DJ. Et moi, j'ai mis 6 mois à me rendre compte qu'il y avait un DJ. Je suis voir, et le mec jouait des vinyles. Alors que l'époque, il y avait... c'était l'époque du CD. Le CD avait déjà tout remplacé. Mm-hmm. Et donc, de voir cette musique aussi futuriste sur des platines, j'ai complètement halluciné. Et avec Philippe, et Philippe s'est dit, mais c'est trop bien des vinyles. Il faut qu'on sache où sont, où on peut acheter ces vinyles-là. Et il faut qu'on essaie de faire ça. Et donc, on a commencé à découvrir les magasins de musique et le... et à acheter des vinyles, les vinyles de techno qui arrivaient à l'époque dans les années 93-94. Et alors là, comme musicien, moi, le DJ, c'était un truc que j'arrivais pas à faire en vinyle. J'avais du mal à synchroniser, parce que c'était des disques vinyles, donc il fallait synchroniser les disques en vinyle pour avoir les beats mixés, pour enchaîner de l'un à l'autre sans que ça s'entende. Et ça, c'est un truc qui a toujours été assez difficile pour moi. J'essayais, mais j'étais pas très très fort. Mais par contre, je me suis dit, mais en fait, cette musique-là, nous, on était dans le studio, je me suis dit, ça, par contre, je vois comment on peut faire la musique. Et donc, je me suis acheté un sampler, un ordinateur, et j'ai commencé à faire la techno. Et là, j'étais beaucoup plus, c'était beaucoup plus facile pour moi de faire cette musique.
D'accord, ton propre chose.
C'est le moment où je me suis dit, ben, je me remets à la musique, là où j'avais arrêté la basse. Je me suis dit, cette musique-là, en fait, il n'y a pas besoin de virtuosité. Moi, c'est ça mon handicap, en fait, je ne suis pas virtuose du tout. Mais l'ordinateur, ça me permet de réfléchir. Je me dis, ben, cette note-là, si elle est à cet endroit-là, ça va être bien. Hop, je la mets à cet endroit-là et j'ai pas besoin, tu vois, d'avoir le feeling ou le truc comme ça. Je la mets là et pas. Et il se trouve que je me trompe pas trop. En tout cas, ce que j'arrive à produire me satisfait, contrairement avec un instrument de musique ou avec des platines. Et donc, j'ai commencé à faire de la musique. Après, Philippe, il a dit, ah ouais, vas-y, on fait de la musique ensemble. Et là, on a commencé à faire des maxis avec Philippe sous le nom de Motor Bass. Et les maxis ont marché tout de suite. Ils ont une reconnaissance en Angleterre. C'est-à-dire qu'on a eu un... Dès le premier maxi, on a eu un article dans, c'était Mix Mag, à l'époque je me souviens plus, en tout cas c'était un magazine anglais qui a chroniqué notre premier maxi en disant le truc super bizarre, il y a de la bonne musique qui vient de France. Et tu vois, c'était le truc, donc du coup on a fait un deuxième maxi et ensuite on a fait le deuxième maxi qui a eu un impact encore un peu plus fort. Et après, on a fait l'album, et moi j'ai fait l'album de Super Discount. Et c'est vrai que là, autant jusqu'à présent, tout n'était pas évident, autant là, la reconnaissance est arrivée tout de suite. Ça a tout de suite bien marché. Alors, pour revenir à ta question, c'est à ce moment-là, quand le Super Discount est sorti, tout d'un coup, il y a la maison de disques. Là, on avait signé avec un distributeur qui s'appelle Pias, Play It Again Sam, qui est un distributeur belge, et qui avait signé qui a dit « je m'occupe de la sortie de vos albums ». Et là, il a dit « maintenant, il faut tourner ». Moi, j'étais là, mais tourner, je ne sais pas jouer d'un instrument. Il a dit, mais non, mais tu tournes DJ. Et je me suis dit, bon, bah là, il va falloir que je m'y mette vraiment. Mais c'était un truc contre nature. Je n'étais pas hyper fan de l'idée d'être DJ. C'était compliqué. J'avais aussi un problème à être sur scène. Et que, alors là, c'était quelques années après. Donc, les gens commençaient à regarder le DJ. Et moi, me donner en spectacle, c'est un truc avec lequel je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas... d'être le centre de l'attention, c'est vraiment un truc qui me plaisait pas tellement. Et donc, j'y suis allé vraiment reculant. Et puis, au bout d'un moment, j'ai quand même fait un peu des progrès, j'ai réussi à passer des disques. Et finalement, le fait d'être le centre de l'attention, au bout d'un moment, tu t'y fais. Et c'est quand même assez gratifiant. Et donc, le fait de devenir DJ, ça a mis longtemps. Donc maintenant, ouais, je peux te dire que je suis DJ. Ma principale activité, c'est quand même de faire de la musique. Moi, je me sens comme un producteur de musique avant d'être
DJ. D'accord.
C'est-à-dire que le jour où les gens ne viendront plus me voir en DJ, ce qui peut arriver, je continuerai à faire de la musique.
D'accord. Mais je crois que you answered my question, but tu joues en live et tu composes. Quel est le plus satisfaisant?
C'est un peu la théorie qu'est la pratique. C'est-à-dire que quand je suis ici, je fais des morceaux pour les clubs. Et alors, c'est très théorique. C'est-à-dire qu'il y a un moment... bon, même j'ai des grosses enceintes, je peux mettre assez fort, mais c'est jamais aussi fort que dans un club. Et surtout, il n'y a pas l'énergie des gens. Donc ici, je fais la théorie. Je dis, hop, normalement, si je mets cette partie-là, à ce moment-là, si je fais un break ici, et là, hop, j'envoie une cymbale, normalement, ça devrait... les gens devraient réagir. Donc il y a ce truc-là. c'est très théorique et je travaille comme ça. Et puis après, je prends le morceau, je le mets sur ma clé USB, je vais dans un club et là, la pratique, des fois, ça marche pas du tout. Et des fois, ça marche, mais à des endroits que j'avais pas, auxquels je m'attendais pas. Donc cette pratique-là, elle nourrit quand même la théorie. Au moment où je suis là, je me nourris quand même de tout ce que j'ai vu dans les clubs, de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est quand même là où c'est le fun. D'accord. Parce qu'ici, en studio, c'est laborieux, en fait, ce truc-là. Je me dis, bon, ça marche pas, ça remarche pas, non, ça, j'y suis pas, ça va arriver. Et donc, s'il y avait que la théorie, ce serait un peu chiant.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Ok. Ok. Quelle est l'importance des visuels dans une live?
Le public, quand il voit un DJ, c'est vrai que c'est pas un spectacle extraordinaire, un DJ sur une grande scène de festival. T'as un gars, il est derrière une table de camping et il fait comme ça. Par rapport à un groupe, on était un petit peu, nous les DJ, on était un petit peu nuls, spectaculairement parlant. Et donc, tout d'un coup, il y a eu, c'est d'abord les Daft qui ont fait, les Daft Punk qui ont fait la pyramide et qui ont dit, la musique électronique, elle doit amener autre chose sur scène, elle doit amener un truc plus, plus visuel et plus massif. Et là, effectivement, tout le monde s'est dit, ils ont raison. Encore une fois, ils ont raison avant tout le monde. Et donc là, ils avaient pris le triangle, j'ai pris le carré. Et c'est vrai que tout d'un coup, ça a enchaîné un truc où les DJ devaient avoir une prod visuelle sur scène. Et c'est vrai que c'est assez important parce que sinon, notre prestation scénique... Alors, il y a des DJ qui arrivent hyper bien à lever les bras, ils prennent des micros, tout ça, tout. Moi, je ne suis pas très fort en ça. Et le cube, c'était aussi une manière de détourner l'attention de ma personne, en fait, pour que les gens, ils aient quelque chose à voir, qu'ils soient autre chose qu'un gars qui fait comme ça.
Ouais.
Parce que sinon, les mouvements, ils sont très petits, y a pas, tu vois, c'est vraiment pas spectaculaire. Et donc, le fait de pouvoir montrer au public, d'accompagner visuellement cette désincarnation, on va dire, par des grosses scènes qui bougent, c'est un truc que j'ai adoré faire ça. En fait, mettre en scène un concert, mettre en scène ses visuels, c'est un travail que j'ai vraiment bien aimé faire.
Et vous faites, parce que tous tes concerts, tu fais ça, tu fais un truc visuel chaque fois ou...
Alors, en fait, j'avais fait le Cube. Après, j'avais eu un concert Super Discount. C'est pareil, il y avait un truc visuel. Juste avant le Covid, j'avais un concert qui s'appelait Space Echo et qui était avec des écrans LED qui bougeaient, qui tournaient, qui se reconfiguraient. Ça, c'était un truc sur lequel j'avais beaucoup travaillé. Et puis, en fait, le Covid est passé par là. Donc, le truc, j'ai fait 15 concerts avec. Heureusement, j'ai pas pu le remettre sur la route après. Quand je fais des lives, en fait, je me fabrique un... Et à chaque live, je reprends du matériel différent. Et en fait, je fais des sortes de remix de mes morceaux. C'est-à-dire que je prends un séquenceur, des sampleurs différents, et donc je réinterprète mes morceaux et les morceaux, je fais en sorte qu'ils soient synchronisés aux images et inversement, c'est-à-dire que tout d'un coup, si dans la proposition scénique, il y a un truc très spectaculaire, moi effectivement je vais l'accompagner avec la musique. Là, tout d'un coup, c'est tout ce travail-là de live, il est effectivement, je suis en dialogue permanent entre la manière dont je remixe mes morceaux et ce qui va se passer dans les écrans ou dans les lights.
Et tu dis que tu travailles avec le cinéma ou non?
Non.
Pourquoi?
Je ne sais pas, on ne va pas demander.
Et pas demander?
Non, on ne va pas demander. J'ai eu une fois une proposition, un scénario que je n'ai pas senti, je n'ai pas vraiment senti faire un truc, mais voilà, sinon...
Jamais demandé, ok.
Moi j'aimerais bien, après je ne sais pas si j'en suis capable. En fait, après, voilà, c'est un travail où je sais pas si j'arrive à m'adapter à des images, mais il faudrait essayer, quoi, pour savoir.
On peut lancer un message dans la vidéo.
Si quelqu'un veut essayer, ce sera une première
vidéo. Quel est ton rituel après un set? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges?
Après un set?
Après un set.
Non, je mange avant un set. Ah. Et en général, après les sets, je continue à boire. Parce que les 4h du matin, je continue à boire, il y a toujours quelqu'un qui dit ah ouais, after là, je dis ouais, on y va. Et donc il n'y a pas vraiment de rituel, c'est jamais pareil. J'ai du mal à aller me coucher direct après.
Direct
après,
ok.
Ouais, en fait, il y a un truc qui est très très. Il y a quand même un truc qui est intense. Hein, quand tu fais un set, tu fais danser beaucoup de gens, il y a une ambiance qui arrive. Et de dire. Alors je sais qu'il y a des DJ qui arrivent très bien à dire à la fin du truc hop, salut, moi je vais me coucher. Moi je suis plutôt dans l'enthousiasme et en fait, s'il y a. Tu vois, si on peut continuer à aller boire des trucs quelque part, je suis toujours partant. Voilà, en général, tu manges assez tard, tu vas boire un coup et tu vas jouer au club. J'essaye de ne pas repasser par l'hôtel avant le club, parce que sinon c'est trop dur si tu vas te reposer.
Oui, et ouais.
Tu te relèves à 3h du matin.
T'as pas au PS7, ouais.
c'est trop difficile de te mettre dans l'ambiance. T'arrives, ouais. les gens sont tous à fond, ouais, ouais, et tout. Et toi, t'es là, Donc, j'essaye de pas faire ça. Maintenant, j'ai une demande, c'est que je demande de jamais commencer avant, après 2h du matin. C'est-à-dire que je peux jouer, si je commence à 2h, je peux jouer jusqu'à 6h du matin, il n'y a pas de problème. Mais par contre, commencer après 2h du matin, c'est trop difficile pour moi. Commencer à 3h, tu vois, ça veut dire que là, du coup, j'arrive à 3h, alors je suis cuit. Parce que jusqu'à 3h, j'étais au bar à cocktail avant, et là, ça ne marche pas. Donc voilà, 2h, c'est la bonne heure pour commencer.
Ton son fétiche, Lord Unset.
Ah, un morceau qui s'appelle Sex Face de Disco of Doom. C'est un groupe, c'est un morceau que je joue dans mon set depuis, je pense, 15 ans, qui est un morceau vraiment hyper bien. Alors je crois pas que tu puisses le trouver nulle part, le groupe a disparu, je crois que le morceau il est plus disponible nulle part, mais moi j'ai encore le fichier, okay. Donc je peux le jouer, et c'est effectivement un morceau qui met une ambiance de dingue à chaque fois dans les clubs.
Quelle est l'ambiance entre DJ Canoe comme toi sur le Grosse Festival? Do you hate each other or is it rivalry, or is it all love and peace, or is it hate?
C'est assez marrant. Dans la musique, j'ai remarqué que dans la musique électronique, les gens étaient plutôt sympas les uns avec les autres. J'ai l'impression qu'il y a un. Alors, j'arrive pas à savoir. Ou alors peut-être je suis naïf. mais j'ai l'impression qu'il y a plutôt une bonne ambiance. Tu vois, je voyais moi quand il y avait tous les trucs de. Les groupes genre Oasis et Blur, tu sais, qui... Les ouais. gens, dans la musique électronique, les gens, ils se taillent pas tellement. En fait, quand t'es DJ, t'es dépendant de la musique des autres. C'est-à-dire mm-hmm. que tu joues de la musique... tu joues pas que tes morceaux en DJ. Tu joues de la musique de plein de gens, de plein de producteurs. Et donc, t'es fan. Du coup, parce que quand tu joues de la musique de quelqu'un d'autre, c'est que t'adores sa ouais. musique. Donc, t'es fan. J'ai l'impression que les producteurs de musique électronique, ils sont fans.
D'accord. Pas le...
Il n'y a pas de concurrent. Bon, okay. Après, bien sûr, il y a une concurrence. C'est-à-dire, quand tu vois le truc, ah oui, c'est lui qui fait Coachella cette année. voilà, mais sinon, ça, c'est normal. C'est une émulation, on va dire. Mais c'est plutôt une bonne ambiance. Quand on se retrouve, en général, on rigole bien.
OK, une galère technique que tu es forcé d'improviser sur scène.
Alors, ça m'est arrivé. c'est arrivé, ouais, mais alors... Après, la galère technique, ça va parler vraiment que aux professionnels ou aux amateurs. Parce que, la galère technique, moi, c'est très technique tout d'un coup, tu vois. Et effectivement, alors, en concert, moi, j'ai un home studio sur scène. C'est-à-dire que j'ai vraiment... j'ai pas d'ordinateur. C'est un petit home studio avec des séquenceurs, des boîtes à rythme. J'ai ce genre de matériel.
Ok.
Voilà. Et en fait, ça, c'est une bastade. C'est un truc qui est assez ancien. Et donc, en fait, pour le synchroniser avec le reste, il y a une prise là qui fait que les mélodies qui sont enregistrées à l'intérieur, elles se synchronisent, mais je peux. C'est vraiment. Toutes les mélodies, c'est des trucs qui sont en mémoire là où je appuie sur le bouton. Et donc à un moment, j'avais ça en concert, j'en avais deux. Il y en a une qui faisait la basse et l'autre qui faisait plutôt les mélodies. Et il y en a une des deux qui s'est arrêtée de marcher. Et donc c'était très difficile dans mes morceaux d'avoir un morceau sans basse. Donc j'étais obligé de prendre celle qui restait. Et d'échanger, non, je devais échanger le câble qui marchait d'une boîte à l'autre. Donc, dans les moments de morceau où la basse était importante, je mettais la basse, et puis les moments du morceau où c'était l'autre qui était important, j'étais obligé de changer. C'était une galère qui avait été très 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 compliquée à gérer. Et sinon, c'est de jouer DJ aussi avec une seule platine. Quand des fois tu joues, puis il y a une des deux platines qui ne marche plus. Donc tu dois enchaîner des morceaux alors que tu ne peux pas les enchaîner. Ouais. Donc ça aussi, c'est assez technique. Mais j'ai réussi aussi à m'en sortir en mettant à chaque fin de morceau, hop, un espèce d'effet, d'envoyer dans des effets, hop, remettre vite le morceau sur la même platine. Et voilà, c'est des moments où j'ai sué.
Ah ouais, un peu.
Je parle de galères techniques qui n'ont pas arrêté les shows, parce qu'il y a eu, j'ai eu aussi des galères techniques.
Qui arrêtaient les shows.
Ouais, ouais. Qui
ah ouais, comme quoi.
Ça m'est arrivé pas très souvent. Bah, comme, par exemple, pour le live avec le cube, c'était un vidéoprojecteur qui envoyait les images sur le cube. Et à un moment, le vidéoprojecteur s'arrête. Bon, bah là, le concert s'arrête.
Ah. Voilà. En dehors d'électro, tu écoutes quoi?
C'est rock indé, un peu indie rock, en fait, beaucoup. Ou psychédélique.
Psychédélique.
Ouais, psychédélique.
Comme
Crumb, par exemple. Crumb. Ou alors, c'est le rock, enfin, vraiment, par exemple, Tame Impala, c'est un truc que j'adore.
Oui, j'aime bien.
Ouais, c'est super. Et après, j'ai plein de musiques un peu différentes. Mais j'écoute ouais, beaucoup un mec qui s'appelle Binky, par exemple, en ce moment.
Binky.
Binky, c'est un anglais ou américain. Tu vois, le dernier album, par exemple, de Arctic Monkeys, j'ai écouté en boucle aussi beaucoup. Ouais. Donc j'écoute pas mal de musique comme ça. C'est plutôt indie. Et la musique électronique, j'écoute vraiment pour mon métier de DJ. C'est-à-dire que là, il faut des nouveautés, donc je m'alimente de nouveautés. Donc, mais à la maison, non, j'écoute pas de techno à la maison.
D'accord. Ton dernier coup de cœur artistique.
En musique, en ce moment, j'écoute beaucoup l'album d'un gars qui s'appelle Hotel Ugly. Un album qui est hyper bien. Et dans un autre style, il y a un gars qui s'appelle Sugar Pete, qui est un musicien californien. Un jeune gars complètement fou qui fait une musique que je trouve super bien. C'est super
Sugar
frais.
Pete.
Sugar Pete. Sugar Pete, ouais. Sugar Pete.
Quel impact a eu Internet sur la musique?
Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais collégien et lycéen, dans le lycée, les gens qui écoutaient de la musique, on se connaissait tous. Alors bon, il y avait les gens qui écoutaient un peu la radio, mais les fans de musique, ceux qui achetaient des disques, au lycée, on était une quinzaine à écouter de la musique, à vraiment acheter des disques. Et après, les autres écoutaient la radio ou des trucs comme ça. C'était pas une vraie activité d'écouter de la musique. Ensuite, il y a eu le MP3 qui fait que tout d'un coup, tout le monde a téléchargé le fait que ce soit gratuit. Les gens ont commencé à écouter de la musique. Et là, maintenant, avec le streaming, le fait que tous les jeunes, tous les enfants, ils ont un abonnement maintenant Spotify, ils ont accès donc à toutes les musiques et ils ont accès à une culture musicale énorme. Et surtout, ils écoutent de la musique tout le temps maintenant. Tout le monde écoute de la musique là où je pense que c'était vraiment un truc de légende. Donc, c'est devenu un produit de grande consommation. Et ça, c'est un truc hyper positif pour la musique en règle générale. C'est déjà pas mal comme changement.
Ouais.
C'est déjà pas mal comme changement. Et il y a ce truc-là aussi qui a changé dans la musique. C'est qu'avant, on se définissait par la musique qu'on écoutait. L'Internet a complètement balayé toutes ces barrières. C'est-à-dire que moi, ma jeunesse, dans les années 80-90, selon comment quelqu'un s'habillait, tu savais ce qu'il écoutait comme musique. Ouais. Tu vois, tu avais les hard rockers, tu savais, les new wave, tu savais ce qu'ils écoutaient comme musique. Les gens qui écoutaient de la funk, tu savais ce qu'ils écoutaient comme... Et en fait, aujourd'hui, c'est impossible. Et ce que je vois, moi, les enfants, maintenant, ils ont une culture musicale beaucoup plus large et ils ne se définissent pas entièrement par ce qu'ils écoutent. C'est-à-dire qu'ils vont écouter du rap quand ils vont à un concert, de la folk quand ils sont... En ramasse plein de musiques différentes selon les moments de la journée. Et donc, c'est un truc que je trouve, moi, extrêmement positif.
Positif, oui. Quels sont tes projets pour le futur?
Eh bien, alors là, déjà, je suis en train de finir un album sur lequel je travaille depuis pas mal de temps. C'est un album donc, qui change un peu parce que j'ai des featurings. Donc, il y a des vocaux sur tous les morceaux de l'album. Donc, voilà, c'est un truc qui prend du temps parce que quand tu travailles avec des gens qui ont du talent, ils ont souvent aussi un gros planning. Donc avant de trouver tout ça, ça me prend pas mal de temps. J'espère pouvoir commencer à sortir des morceaux en septembre. Et donc voilà, l'album est presque fini. Puis après, il faut préparer tout ce qui va aller avec, les visuels, les vidéos, le live. Voilà, ça c'est le gros chantier 2024.
D'accord, cool.
Tu continues un peu les DJ sets aussi, les lives?
Je joue tous les week-ends.
Tous les week-ends?
Pratiquement.
Ah.
Je joue pratiquement tous les week-ends. Et même un peu plus, tu vois, l'année dernière, j'ai fait, parce que là, on a fini 2023, j'ai fait 70 dates en 2023. Donc, en fait, comme il y a 52 semaines, ça fait plus de dates que de semaines.
Wow.
Donc, je joue pratiquement tous les week-ends.
Ouais. OK. OK, dernière question, Étienne. Le meilleur conseil que l'on t'ait donné?
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Alors... Tiens, c'est intéressant ça, parce que d'habitude, j'écoute pas les conseils. Tu sais jamais les conséquences que vont avoir tes erreurs. Donc, tu passes ton temps à te tromper dans la vie, je crois, et tu sais jamais les conséquences de tes erreurs. Ça, tu sais, tu crois que tu vas faire un truc bien, en fait, c'est de la merde. Tu crois que tu vas faire de la merde, en fait, il se trouve que c'est...
Oui.
C'est comme ça. Bon, en fait, tout ce que j'ai fait, ça vient de parce que j'ai raté d'autres trucs, en fait. Des trucs que je croyais que j'allais faire, je croyais que je serais ingénieur du son. J'étais assez mauvais ingénieur du son, j'étais au chômage, j'ai pu faire de la musique, c'est ça qui fait que j'ai fait de la musique. Je croyais que j'allais être musicien, donc j'étais pas musicien. Il y a plein de trucs où je croyais avoir merdé, en fait tu dis, ah bah en fait non, heureusement que ça s'est passé comme ça. Donc, ouais, de pas avoir peur. Ça peut être le... faut faire des trucs, de toute façon, voilà. Je pense que c'est ça le conseil que je pourrais donner, c'est faut faire des trucs.
On sait. Étienne, thank you so much. Merci beaucoup. On est 12 heures, non?